Radio Stable.
Morning Edition from NPR
News.
France Inter, le 18-20.
Et ce soir, je vous emmène à la rencontre d'un personnage pas vraiment sympathique. Il a côtoyé Ben Laden de très très près, mais il nous permet de comprendre beaucoup de choses sur le djihadisme, celui d'aujourd'hui, tout ça grâce à un livre étonnant que j'ai en main, et on en parle dans un instant. Avec Florence Paracuelos, on parle de peur des criquets en Russie, d'amnistie en Californie, on sort en boîte de nuit en Suisse. 18h50, les médias en 360, vous verrez par exemple qu'à quelques jours du Super Bowl aux États-Unis, Amazon s'offre une pub hors de prix. L'édito d'Anthony Bélanger en Inde avec une couverture maladie à l'échelle de l'Inde, c'est-à-dire immense. Et puis l'escale reportage tout de suite nous emmène en Finlande sur un site d'enfouissement des déchets. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bienvenue.
Fabienne Saint-Esse. Un jour dans le monde.
Ei tuommoinen meille kelpaa. Tällainen voisi meille kelvata. Ydinvoimaloiden voimakkaasti säteilevä käytetty uraanipolttoaine täytyy eristää ehjään kallioon.
Ce que vous entendez là, c'est du finnois. Il s'agit d'une vidéo qui est présentée par la compagnie finlandaise Posiva sur son site internet. Et elle explique le fonctionnement de son site d'enfouissement des déchets nucléaires. Le site s'appelle Onkalo, c'est une sorte de bure à la finlandaise, et on y enterrera donc très prochainement des déchets produits par les deux centrales du pays, des déchets qui devront rester là pendant 100 000 ans. Bonsoir Anne-Françoise Hiver.
Bonsoir.
La différence, Anne-Françoise, notable avec Bure, dont on parlait à l'instant, c'est que là, eh ben, il n'y a pas de polémique du tout. Au contraire, le projet, c'est le premier au monde à avoir obtenu un permis de construire en 2015. L'enfouissement va commencer très bientôt, et vous nous emmenez voir comment ça se présente.
Vous avez tous des casques, des vestes, des lampes, des bottes? Ok. On est prêts? Allez, on y va.
Ce jour-là, c'est le géologue Thomas Perret qui assure la visite d'Onkalo, la cave en finnois. Nous sommes à 3 heures de route d'Helsinki, sur les bords de la Baltique, à l'ouest du pays, dans la commune de Rajoki, une petite bourgade de 6000 habitants. Aux alentours, ni manifestants, ni pancartes appelant à la fermeture du site, mais une forêt de pins et de bouleaux, derrière laquelle se cache la centrale nucléaire d'Olkiluoto, où le français Areva tente d'achever son réacteur EPR. C'est ici que la société Posiva, en charge de la gestion des déchets nucléaires finlandais, construit son cimetière pour l'éternité. Une fois l'équipement contrôlé, nous embarquons à bord d'une camionnette, direction 420 mètres sous terre. Un long chemin rocailleux serpente dans la roche sur 4 km. En bas, l'atmosphère est humide, le bruit assourdissant, des ouvriers sont en train de sécuriser la paroi d'une galerie latérale.
Notre concept est d'abord de creuser un corridor central, puis des tunnels de dépôt définitifs. Ensuite, nous perçons des puits dans le sol de ces tunnels. Les déchets nucléaires seront placés dans des capsules en cuivre avant d'être enfouis dans ces trous comme celui-ci. Venez par là, je vais vous en montrer un.
Une fois remplis, les puits seront comblés d'argile, puis d'ici une centaine d'années, les tunnels seront à leur tour scellés par d'immenses bouchons de béton. Aucune intervention humaine ne sera plus alors nécessaire. La roche granitique de la péninsule d'Olkiluoto est idéale pour ce type de sépulture, assure le géologue Thomas Perret.
Olkiluoto a beaucoup d'avantages. L'un des principaux est que cette zone est géologiquement stable. Nous sommes loin de tout risque de chevauchement entre deux plaques actives et de toute activité volcanique. Qui sait, peut-être la civilisation aura disparu, mais les déchets nucléaires n'auront pas bougé.
C'est cette assurance qui exaspère Matis Aarnisto, ex-patron de l'Institut finlandais de géologie et un des seuls scientifiques à s'être mobilisé contre Onkalo. Aujourd'hui, à la retraite, il continue de critiquer le projet.
Il y a une tendance à la propagande de la part des compagnies, mais aussi de notre système politique et de nos autorités qui veulent nous convaincre que parce que nous avons ce sous-sol rocheux stable de plus de 2 millions d'années, il n'est pas dangereux d'y entreposer des déchets nucléaires.
Selon Matis Aarnisto, il est impossible de prévoir ce qui se passera pendant et après la prochaine glaciation qui devrait intervenir d'ici quelques dizaines de milliers d'années.
Personne ne peut garantir que les capsules ne seront pas brisées pendant la dépression causée par l'accumulation de glace, puis le relèvement du sol qui aura lieu ensuite. Le bloc a été cassé par des tremblements de terre et des failles qui traversent le site d'enfouissement d'Ankalo. Il n'y a rien de spécial à Olkiluoto.
Les opposants au projet pourtant sont peu nombreux. Greenpeace n'a même pas organisé de campagne. L'ONG savait le combat perdu d'avance. Au Parlement, à Helsinki, seuls quelques élus verts expriment leur opposition. La députée Satu Hassi dénonce une décision plus politique que scientifique.
À Eurajoki, il n'y avait pas de résistance locale parce que la municipalité recevait déjà beaucoup d'argent de la centrale nucléaire qui fournit aussi un nombre remarquable d'emplois pour une aussi petite municipalité.
De fait, en 2017, les impôts versés par l'électricien TVO qui gère la centrale d'Olkiluoto ont compté pour un tiers du budget de la commune d'Eurajoki. TVO est aussi le premier employeur privé dans la région. Satu Hassi raille la confiance des Finlandais.
Nous avons tendance à croire ce que disent les autorités. Même s'il y a des moments où les autorités ne prennent pas suffisamment leur distance avec les gros lobbies industriels.
Le président de Posiva, Janne Mokka, au contraire, défend une décision responsable.
L'idée est que cette génération qui a utilisé l'uranium doit en gérer les conséquences. C'est le but commun.
Mais comment garantir que les déchets resteront bien sous terre pendant 100 000 ans, que personne pendant cette éternité ne cherchera à découvrir ce qui se cache sous la péninsule d'Olkiluoto? Jussi Ainonen, qui chapeaute la gestion des déchets nucléaires auprès de la STUC, l'autorité de sûreté nucléaire finlandaise, tempère.
Oui, c'est une longue période, mais l'activité des déchets utilisés et leur dangerosité diminuent très rapidement durant les 500 à 1000 premières années.
Surtout, rappelle-t-on, en Finlande, il n'y a pour le moment aucune autre alternative. Garder ces déchets en surface, comme c'est le cas aujourd'hui, dans un contexte international et climatique instable, serait irresponsable. Le 22 janvier, dans le pays voisin, pourtant, la Cour environnementale suédoise a retoqué un projet similaire, estimant que sa sécurité n'était pas garantie.
Et on l'a bien entendu, hein, ce chiffre, Anne-Françoise Hiver, merci beaucoup. 100 000 ans sans y toucher, sinon allez savoir à quelle catastrophe on s'expose. Merci beaucoup.
Hello. France Inter.
Good evening and welcome.
Gerasimashivo Kapion.
Bonjour dans le monde.
Intervencia extra.
Sous les radars et Florence Paracuelos avec en bandoulière l'actualité qui vous a échappé sur la planète. On commence avec la Russie qui fait place nette, Florence, avant la Coupe du Monde de foot.
Ben oui, parce que le monde entier aura les yeux rivés sur le pays du 14 juin au 15 juillet prochain. Alors tout doit être parfait, d'autant que la séquence étreindra très certainement le nouveau mandat de Vladimir Poutine, sa 19e année au pouvoir. Alors comme partout, évidemment, dans ce genre de cas, on va nettoyer les villes hautes de fond en comble. Il y a par exemple une campagne d'extermination des chiens et des chats errants dans les 11 villes qui accueilleront les matchs. Des agents les tuent avec des sarbacanes empoisonnées et accessoirement c'est un marché que les fourrières privées s'arrachent. On imagine la réaction des associations de sauvegarde des animaux. Donc le péril des morsures de chiens, en tout cas ça s'est coché. Plus effrayant, le risque de pollution ou d'accidents chimiques. Pour y parer, un décret signé Poutine qui demande à toutes les usines, à des centaines de kilomètres à la ronde, de s'arrêter avant et pendant la compétition. C'est la correspondante du Monde qui raconte. Sont concernées les entreprises qui utilisent des sources de rayonnement ionisant, des substances chimiques, biologiques, radioactives ou explosives, donc les centrales nucléaires ou électriques, les raffineries, toutes les usines qui utilisent des produits chimiques. On n'en connaît pas beaucoup qui n'en utilisent pas. Donc ça va beaucoup plus loin que ce qu'avaient fait les Chinois pour les JO de 2008. Et comme ça s'annonce très compliqué, on demande aux entreprises qui ne pourraient pas s'arrêter, parce qu'évidemment une centrale électrique ou nucléaire, si elle s'arrête pendant le mondial, c'est quand même un problème, on leur demande de décrire les conséquences écologiques et le nombre de victimes que pourrait faire leur usine en cas d'accident. Quoi qu'il en soit donc, l'économie va tourner au ralenti pendant un mois. Dernier péril, et il donne des suées aux officiels du ministère de l'Agriculture.
Mais quelle horreur, hein.
Les sauterelles, Fabienne, elles pullulent sur 1 million d'hectares de terre du sud de la Russie, pas loin de Volgograd, ville haute du mondial. Elles pourraient bien ravager l'herbe si verte des stades de foot, celle qu'on aura mis des mois à faire pousser pour la rendre la plus belle et la plus grasse possible. Elles en raffolent. Imaginez un nuage de sauterelles en plein mondial et les hectolitres de pesticides qu'il faudrait pour pulvériser pour en venir à bout, ce serait vraiment la plaie.
Voilà, la plaie qui s'abat sur la Russie. On part pour Zurich. Et si on sortait, Florence ?
Mais oui, on va en boîte. Sympa cette boîte, Fabienne.
Pas mal.
En revanche, le type qui est derrière vous, là, il serait pas un peu lourd ?
Ouais, mais il me connaît mal. Hein.
Oui, parce qu'en tout cas, si vous importune, vous savez ce qu'il faut faire, Fabienne ?
Ben, j'ai des genoux.
Oui, vous avez des genoux, mais vous pouvez aussi aller voir le barman ou n'importe quel membre du personnel. Et vous demandez Louisa, Fabienne, ouais. Est-ce que Louisa est là ? C'est le code adopté dans les bars et les boîtes de la capitale suisse pour signaler que vous êtes victime de harcèlement. C'est discret, c'est plus discret que les genoux, Fabienne. Ça permet de vous mettre à l'abri dans une salle à l'arrière ou de vous appeler un taxi sans forcément s'en prendre au harceleur. C'est pas le but, c'est un signal qui a été pensé pour les femmes qui n'auraient pas envie de faire un esclandre ou de donner des paires de baffes ou des coups de genoux comme vous. Ce sont les Anglais qui ont popularisé ce code l'an dernier. Les Allemands s'y sont mis, maintenant les Suisses. Donc si vous sortez là-bas, n'oubliez pas, est-ce que Louisa est là ?
Allez, cap à l'ouest à San Francisco, la magnanime. If you're
going to San Francisco. Et si vous étiez à San Francisco dans ces années-là,
des genoux à l'époque.
Et que vous avez été condamnée, Fabienne, pour possession ou consommation de marijuana, alléluia, vous allez être amnistiée. Toutes les condamnations effacées depuis 1975, c'est l'application rétroactive de la législation, de la légalisation de l'herbe en Californie. Encore une fois, San Francisco répare les dégâts de la désastreuse guerre contre la drogue. C'est pas un vieux fumeur qui le dit, mais c'est le procureur de la ville. 8000 dossiers seront corrigés et autant de casiers judiciaires effacés au grand bonheur de ces vieux fumeurs.
Allez, Florence Barakoulos, merci beaucoup. Tiens, on va rester en Californie avec Nick Waterhouse. It's time. C'est aussi ce qu'on dit à notre invité qui est sur pas arrivé. It's time. C'est l'heure. Keeping my head well trained, watching truth come grain by grain. Just the once I wanna hear that something is mine. Oh, tell me it's time. Tell me it's time. My own double, looking back, saying might be trouble. Can't say that I haven't been trying. Oh, you put me on the midnight train. Every car's a running through my brain. Just the once I wanna hear that something is mine. Tell me it's time.
drawing near, just waiting for you to tell me it's time. Whoa, tell me it's time. Well, tell me it's time. Time, time, time.
Mais j'ai oublié comment il s'appelait le monsieur. Tiens, si, Nick Waterhouse. Voilà, merci Dorothée Barba, it's time.
Radio. BBC News, Jazeera, CBS Morning News,
France Inter,
Public Broadcasting,
le 18-20,
equals more reasons to watch.
Un jour dans le monde.
Heureusement que vous suivez. Bonsoir ouais. Dorothée Barba.
Bonsoir Fabienne, bonsoir
les
à tous.
Les médias en 360, comme tous les jeudis, ce qui buzz, qui fait parler de la planète média, ce qui fait la une des journaux et des sites. On commence avec le fake news de la semaine, il nous conduit en Australie.
Oui, sur une plage de Melbourne où il est interdit de boire de l'alcool, de manger du porc et de porter un bikini. C'est du moins ce qu'indique une pancarte qui précise « Ceci est une plage multiculturelle ». Alors la photo de cet écriteau, censée avoir été plantée dans le sable par la municipalité, elle a été énormément partagée sur les réseaux sociaux, notamment par des comptes d'extrême droite. Ça permet de comprendre que multiculturel veut dire charia, tout simplement, écrit notamment l'un d'entre eux. Sauf que cette pancarte, eh bien, c'est un faux. La ville de Melbourne a répondu sur Twitter, réponse très polie. Merci d'avoir porté cela à notre attention, mais ce n'est pas un panneau de la ville de Melbourne et nous ne l'approuvons pas. Ah, au fait, juste un détail, il n'y a pas de plage dans notre municipalité. Vous me répondrez que Melbourne est au bord de la mer,
quand même,
Fabienne.
Oui.
Voilà, en effet, l'agglomération est sur le littoral australien, mais les plages dépendent d'autres communes. Or, il est bien écrit « Ville de Melbourne » sur ce faux grossier qui a fait le tour du web.
Allez, trois chaînes de télévision interdites par les autorités, ça se passe au Kenya.
Les chaînes de télé en question ont été sanctionnées pour avoir retransmis en direct la cérémonie d'investiture de Raila Odinga mardi soir. Cérémonie tout sauf officielle puisque cet homme de 73 ans, chef de file de l'opposition, a perdu les élections en octobre dernier. C'est son rival Kenyatta qui a été élu. Ça n'a pas empêché Odinga, qui conteste ces résultats, de rassembler des milliers de personnes dans un parc de Nairobi pour s'auto-proclamer président du peuple kényan. Et bien après avoir retransmis cette cérémonie, les trois chaînes privées ont été suspendues, Citizen TV, NTV et KTN News. Un acte de censure sans précédent qui suscite l'indignation. Mais en début d'après-midi, aujourd'hui, la haute cour kényane a suspendu cette décision. Les chaînes pourraient donc reprendre leurs émissions temporairement.
À la télé américaine, cette fois, Dorothée, vous avez repéré une interview complètement surréaliste.
Alors, interviewer en direct quelqu'un qui a reçu un gros chèque pour surtout ne rien dire. Voilà un défi intéressant, Fabienne. Et c'est Jimmy Kimmel qui s'y colle, présentateur sur ABC. Son invité, Stormy Daniels, actrice porno qui est au cœur des conversations aux États-Unis. Elle aurait eu une liaison avec Donald Trump en 2006, alors que ce dernier venait d'épouser Melania. Et le Wall Street Journal a révélé récemment que l'actrice avait touché 130 000 dollars pour se taire juste avant l'arrivée de Trump au pouvoir. Exercice d'équilibriste donc de Jimmy Kimmel. Vous ne pouvez pas dire si vous avez un accord de confidentialité, mais si vous n'en aviez pas, vous pourriez certainement dire que vous n'en avez pas. Oui ? Vous êtes tellement intelligent, Jimmy, répond l'actrice. Voilà, toute l'interview est à l'avenant, des sourires en guise de réponse. Elle ne dit rien, elle ne confirme pas qu'elle a touché de l'argent de Trump pour se taire, mais elle brandit une poupée dont la bouche est recouverte d'un scotch. Tout est dit.
Voilà, on rit et en même temps c'est tellement pathétique. Mmh. On reste aux États-Unis et le Super Bowl, grande finale de football américain, ce sera dimanche à Minneapolis.
Et ça va cogner, les New England Patriots, tenant du titre, affrontent les Philadelphia Eagles. Rendez-vous sportif très attendu, mais surtout immense enjeu commercial. Les marques doivent débourser 5 millions de dollars pour 30 secondes de pub pendant le Super Bowl. Et de la pub, il y en a. Le match est même découpé en cartons pour faire toute la place à la publicité. L'une des surprises cette année, eh ben, c'est Amazon, qui s'est payé un spot d'une minute. C'est très long.
Ça fait 10 millions, 5 fois 2.
Bien, bien joué.
Merci.
Et c'est une pub pour sa nouvelle série.
United, there is little we cannot do to assure the survival of liberty.
Jack Ryan.
Jack Ryan, série d'espionnage dont la diffusion est prévue fin août sur la plateforme Amazon Prime Video. Étonnant hein, d'en faire déjà la pub. C'est une manière en fait d'imposer sa présence à la NFL, la très puissante ligue de foot américain. Rappelons qu'Amazon, comme Facebook, lorgne sur la diffusion du sport. Le marché des droits sportifs est en passe d'être chamboulé par les géants du numérique. Et puis enfin, puisqu'on parle des pubs Super Bowl, sachez que la marque de bonbons Skittles affirme avoir réalisé une pub tube qu'elle ne va montrer qu'à une seule personne. Le soir du match, les téléspectateurs américains verront une vidéo de cette personne en train de regarder la pub Skittles. C'est véridique. Alors, c'est pas parce que les pubs coûtent cher à diffuser qu'il faut se précipiter dans le n'importe quoi non plus.
C'est vrai. Dorothée Barba dans Un jour dans le monde. Merci beaucoup.
France Inter. Fabienne Sintès. Un jour dans le monde.
Bonsoir les Minou de l'NSAM.
Bonsoir.
On est ravis de vous voir. Vous étiez coincé dans les bouchons, on raconte tout à nos auditeurs dans Un jour dans le monde. On est ravis que vous soyez là. Vous signez ce livre qui s'appelle L'histoire secrète du djihad d'Al-Qaïda à l'État islamique. Le cœur, l'essentiel, on va dire, c'est le récit. J'allais dire la confession, mais confession est pas le mot qu'il faut, puisqu'il y a une forme de regret quand on parle de confession. Or là, pas du tout. C'est le récit de celui qui a été le mufti d'Al-Qaïda à l'époque de Ben Laden, qui permet aussi de comprendre la construction du djihad dans les années 90 et peut-être de mieux comprendre ce qui nous arrive aujourd'hui. Votre homme s'appelle Abou Hafs, il fréquentait Ben Laden d'extrêmement près. Il a servi de professeur, il a servi de guide spirituel, il a assuré la formation intellectuelle finalement d'un certain nombre de combattants et surtout assuré jusqu'à quel point les actions d'Al-Qaïda étaient conformes à la charia. En gros, c'était ça son rôle à ce monsieur ?
Oui, son rôle officiel était effectivement le mufti d'Al-Qaïda. Il était le président de ce qu'ils appelaient le comité de la charia, c'est-à-dire qu'il lui revenait de dire ce qui était légal ou pas d'un point de vue islamique. Et à ce titre, donc, il a été quelqu'un de très proche d'Al-Qaïda et dans la hiérarchie officielle, il était à peu près le numéro 3. C'est-à-dire qu'il y avait le Ben Laden qui était le grand émir, le chef général, et puis après son adjoint militaire, et puis après, il y avait donc ce fameux Abou Hafs al-Mauritani. Alors, il faut dire que l'intérêt de l'histoire de cet Abou Hafs, c'est plutôt, vous l'avez d'ailleurs dit tout à l'heure, c'est l'histoire de... À travers son histoire, on comprend aujourd'hui comment est-ce que le djihad moderne s'est construit de la guerre en Afghanistan à la fin des années 70, au début des années 80, qui a servi d'ailleurs de la première grande expérience contemporaine des djihad. Où justement Ben Laden a fait ses premières armes. C'est là où il a rencontré le premier idéologue du djihad moderne, qui est Abdallah Azam, un palestinien. Puis après, et c'est là où justement Ben Laden s'est aussi construit son image de chef djihadiste.
Et c'est vrai, et vous le racontez effectivement à travers le parcours d'Abou Hafs, il y a une sorte de parcours initiatique à chaque moment de djihad, on va dire. Et là, clairement, c'est l'Afghanistan pour lutter contre les soviétiques. Il le raconte plutôt bien, d'ailleurs, Abou Hafs. Chacun ne rêvait que d'une chose, c'était d'y aller. Chacun à son tour. Et il le fait lui aussi, d'ailleurs, au tout début des années 90.
D'ailleurs, il dit que l'un des plus beaux moments de sa vie, c'était quand il était arrivé en Afghanistan et que son tour était arrivé, justement, de monter sur le front. Il écrit dans ses mémoires que c'était l'instant le plus beau de sa vie. Et pour quelqu'un de normal, c'est assez étonnant que vouloir mourir puisse rendre quelqu'un très heureux, mais c'est effectivement le cas de non seulement d'Abou Hafs, mais de l'ensemble des djihadistes en général.
Lemine Oultem Salem, avant de rentrer dans le gras, si je puis dire, parce qu'il y a des choses qui sont très étonnantes dans ce que vous racontez, je suis quand même très intrigué. Pourquoi est-ce que subitement cet homme a envie de vous raconter, il a envie de raconter son histoire? Pourquoi il veut vous plonger dans l'ensemble de ses mémoires?
Alors, il faut dire que cet homme, je l'ai rencontré par hasard il y a de cela quelques années. Je me retrouve en Mauritanie pour un
reportage.
Alors,
on va dire quand même, vous êtes journaliste mauritanien, vous connaissez par cœur ces endroits-là. Vous avez fait un documentaire sur les salafistes il y a 2 ans qui avait fait beaucoup de bruit. Donc, vous êtes un personnage connu dans ce coin-là du monde. Mais tout de même, pourquoi est-ce qu'on a envie de raconter ça quand on est à Abou Hafs?
Moi, je pense qu'Abou Hafs, d'ailleurs, on se rend compte à la lecture du livre, il a une trajectoire qui est... Donc le point commun, à mon avis, hein, il y a quelque chose de très présent dans sa vie, c'est l'ambition. C'est quelqu'un qui est très ambitieux, un garçon qui est né sous Itan dans le désert de Mauritanie, qui était destiné plutôt à devenir commerçant, comme le sont en général les gens de son clan, de sa tribu. Puis il ne se contente pas d'être un apprenti commerçant, comme le voulait son père. Et puis après, il revient dans le désert pour encore approfondir ses connaissances théologiques. Puis après, quand il rencontre quelques jeunes étudiants venant de l'étranger, notamment d'Allemagne, qui militaient dans le cadre de plus ou moins proches de la mouvance des frères musulmans, qui l'initie justement à l'action politique. Puis à travers eux, puis après son entrée à l'Institut d'études islamiques financé par les Saoudiens en Mauritanie, découvre le djihad afghan. Et il n'a pas hésité un instant quand on lui a proposé d'y aller. Il y va donc à l'âge de 23 ans.
Oui, mais pourquoi il raconte maintenant? Pourquoi est-ce qu'il a envie de le dire maintenant? Est-ce qu'il n'a pas envie de se dédouaner d'une certaine façon, un peu quand même?
Possible, mais je pense plutôt qu'Abou Hafs, c'est quelqu'un qui, à mon avis, même si aujourd'hui Ben Laden n'existe plus, Al-Qaïda n'existe plus sous la forme, en tout cas, à laquelle qu'il a connu lui personnellement. Ouais. Et même si d'ailleurs il avait démissionné d'Al-Qaïda à la veille du 11 septembre, puisqu'il s'opposait en septembre. Oui. Je pense qu'Abu Hafs est quelqu'un qui est très ambitieux, qui aujourd'hui, à mon avis, n'a pas dit son dernier mot. Il rêve de jouer un rôle.
Il y a une frustration peut-être. Alors effectivement, l'idée de jouer un rôle, d'appartenir à quelque chose, parce que pour l'instant,
ses réactions, ses sorties régulières sur les réseaux sociaux, dans les médias arabes, notamment du Golfe, comme Al Jazeera, etc., où il prend position sur les grandes questions majeures qui agitent le monde musulman, l'Irak, la Syrie, Daesh, etc., le conflit Arabie Saoudite, le Qatar. Aujourd'hui, se retrouve aujourd'hui, par exemple, à défendre le Qatar. Mais le plus intéressant dans l'histoire d'Abu Hafs, c'est plutôt qu'il a été le témoin d'événements qui ont marqué le monde, notamment le 11 septembre.
Alors justement, allons-y.
Les attentats anti-américains en Afghanistan, au Kenya et en Tanzanie.
Alors attendez, chaque chose en son temps. On va y aller effectivement et va surtout aller à cette période du 11 septembre, juste avant, parce que ça me paraît fascinant. On est page 77. Il est déjà donc très largement numéro 3 de Ben Laden, très proche de lui. Et il y a cette phrase incroyable. Ben Laden était très inquiet des dérives sanguinaires des djihad algériens. À ses yeux, les exactions contre les civils étaient inadmissibles d'un point de vue islamique et contre-productives d'un point de vue politique. C'est votre interlocuteur qui raconte ça. Et qui nous explique que Ben Laden ne voulait pas qu'on tue de civils.
Il n'est pas le seul. Je pense que tous les témoignages sur cette époque-là, notamment chez les Algériens, les gens de ce qu'on appelle aujourd'hui Al-Qaïda au Maghreb islamique, était Al-Qaïda Ben Laden, était effectivement très hostile au GIA. Il dénonçait la dérive sanguinaire à l'époque du GIA. Et il avait même joué un rôle important, déterminant dans la scission du GIA qui finira par donner le groupe salafiste pour la prédication et le combat qui est l'ancêtre de l'actuel Hakimi. Cela dit, oui, Ben Laden, on découvre un Ben Laden qui peut être par moments très humain, et puis par moments c'est Ben Laden qu'on connaît.
Mais du coup, j'ai envie de vous demander, à quel moment il y a eu une sorte de changement chez ce personnage de Ben Laden qui a créé Al-Qaïda? Comment le même homme peut organiser le 11 septembre et nous dire, quelques années plus tôt, il ne faut pas tuer de civils? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps?
Justement, on le découvre dans les mémoires d'Abu Hafs. Il semble croire à Abu Hafs qu'il y a eu un virage, un moment clé dans l'histoire de Ben Laden. C'est quand il s'était réfugié au Soudan et que l'Arabie Saoudite avait décidé de le déchoir de sa nationalité. Elle lui avait même envoyé sa propre mère et une partie de sa famille pour le convaincre de rentrer. Il avait d'ailleurs
Abu Hafs
a été consulté. C'est une des rares personnes à laquelle Ben Laden d'ailleurs avait posé le problème, fallait-il obéir à sa mère ou pas, etc. Bon, finalement Abu Hafs le convaincra de ne pas rentrer en Arabie Saoudite. Et d'ailleurs, et juste après, Ben Laden, Abu Hafs a convaincu Ben Laden de d'écrire une lettre au roi. À l'époque, c'était l'émir, gouverneur de la Mecque, qui était le prince Abdallah, qui deviendra plus tard le roi d'Arabie Saoudite. Ben Laden avait proposé aux Saoudiens de rentrer et de s'éloigner de toute action politique violente, etc., et de se consacrer plutôt à la prédication, etc. Et l'entourage du prince Abdallah à l'époque avait bloqué cette initiative. Et selon Abu Hafs, c'est à partir de ce moment où Ben Laden est entré avait choisi une sorte de fuite en avant. Ce qui explique d'ailleurs, me dit-il, à chaque fois que j'ai essayé de le convaincre, par exemple, de ne pas commettre, notamment, de le dissuader de commettre des actions qui pourraient éventuellement nous nuire, nous, en tant qu'organisation, mais également à l'Afghanistan, où on était réfugiés, notamment, par exemple, pour le 11 septembre. Il me dit, j'ai senti qu'il était complètement décidé à aller jusqu'au bout. Et quand j'ai remarqué, dit-il, quand Abu Hafs remarque qu'il a échoué à le convaincre, par exemple...
Il le quitte, en quelque sorte. Enfin, c'est une sorte de rupture.
Il le quitte tout en gardant quand même un lien extrêmement personnel et étroit avec lui. Beaucoup d'affection. Il se rend des visites pour des cérémonies sociales, religieuses, etc.
Mais il le dit, d'ailleurs, monsieur Amsalem, il le dit. Il dit, j'avais remarqué que Ben Laden n'en faisait plus qu'à sa tête. Il décidait seul. Il ne consultait plus les autres organes d'Al-Qaïda, ou alors il ne le faisait que pour la forme. Ça veut dire, quand on vous lit, que si Ben Laden avait écouté ses lieutenants, il n'y aurait pas eu de 11 septembre.
D'ailleurs, pour le détail, l'écrasante majorité de la direction d'Al-Qaïda était contre le 11 septembre. Il faut dire aussi que Ben Laden n'avait pas l'habitude de leur dire tout. Ben Laden parlait de manière générale en annonçant vaguement qu'il
Et ça aussi, ça m'a étonné dans votre livre d'ailleurs, que même le numéro 3, il ne savait absolument pas ce qui allait se passer
à ce moment-là. Y compris le chef des opérations militaires, qui lui-même finira par exécuter le 11 septembre, ne savait pas grand-chose du 11 septembre. Il était même hostile au principe du 11 septembre, mais il finira par exécuter le 11 septembre. Oui, Abu Hafs, à travers les mémoires d'Abu Hafs et les confessions d'Abu Hafs, on découvre un Ben Laden quand même qui avait une manière très solitaire de gérer Al-Qaïda, comme si c'était une épicerie personnelle. Et d'ailleurs, ce que
reproche... Oussama était irrécupérable, ce sont les propres mots.
Absolument, absolument, part, absolument. Mais ce n'est pas l'un des sept éléments intéressants qu'on découvre dans ce qu'elle raconte à Abu Hafs. On découvre aussi les liens très troubles qu'a entretenu Al-Qaïda avec un certain nombre de pays, notamment le Soudan, le Yémen d'Ali Abdallah Saleh, qui est mort il n'y a pas très longtemps, le Pakistan, les services pakistanais notamment. Il y a quelques anecdotes assez
drôles. Alors, par exemple, on va en raconter une. Par exemple, après le 11 septembre, il y a un émissaire emmené par les Américains, c'est un émissaire pakistanais, qui vient dire à Ben Laden qu'il est temps de se rendre. Donc, on est à deux doigts, en fait, d'avoir Ben Laden. Et là, cet émissaire pakistanais se retourne et lui dit... Je suis là pour vous donner un message des Américains, mais surtout ne le suivez pas.
Absolument. Et d'ailleurs, selon Abu Hafs, il s'agit du chef des services secrets pakistanais, des services de sécurité pakistanais, le fameux ISIS, qui sont très connus. Et donc, il vient remplir sa mission officielle à titre d'émissaire du gouvernement pakistanais auprès du Mollah Omar, en lui disant voilà, donc officiellement, je viens demander la livraison de Ben Laden pour qu'on le livre aux Américains. Mais. De vous à moi, ne le faites pas. Et quand j'ai posé la question à Abu Hafs, mais pourquoi, à votre avis, un officiel pakistanais, alors que son pays est un allié très important des États-Unis dans la région, peut se permettre de se comporter comme ça? Il m'a dit, mais vous savez, les Pakistanais sont comme tout le monde, y compris dans leur service. Il y en a qui sont aussi pieux que le Mollah Omar ou que moi, et que c'était peut-être sa conscience religieuse.
Lemine Salem, est-ce que vous croyez tout ce qu'il vous dit? Parce qu'il y a des moments où on vous sent douter, et en vous lisant, on doute aussi de ce qu'il dit lui, en fait. Alors, et où on certains... se demande effectivement s'il ne veut pas se donner le beau rôle dans cette histoire-là, ce monsieur.
Alors, le beau rôle, je ne sais pas, je suis persuadé qu'Abu Hafs a envie encore de jouer un rôle... Mais je pense que pour l'essentiel, je crois qu'il dit vrai, puisque au moment où j'ai commencé à travailler sur le sujet, j'ai fait un travail de recoupement, j'ai fait des interviews parallèles avec des gens qui ont travaillé de très longues années sur Abu Hafs lui-même, sur Al-Qaïda, sur Ben Laden. Et l'essentiel, c'est qu'il dit, me paraît être vrai, parce que n'oublions pas quand même qu'Abu Hafs a été au cœur de cette histoire d'Al-Qaïda depuis le début. Quand on a été le moufti, l'ami personnel, le script attitré, le poète attitré, le conseiller personnel, mais aussi le tuteur de la famille de Ben Laden. Il y a un épisode très important dans ses livres, c'est quand Abu Hafs raconte comment est-ce qu'après le 11 septembre...
Alors, on va y venir. C'est lui qui exfiltre toute la famille vers l'Iran.
Ah oui, oui, tout en étant déjà démissionnaire d'Al-Qaïda, et juste avec un seul titre qui était conseiller du Mollah Omar, qui était à l'époque le chef des talibans, Abu Hafs se retrouve à la tête de l'ensemble des groupes djihadistes qui avaient décidé donc de fuir l'Afghanistan après le début des opérations américaines.
Vous parliez de collusion entre certains pays. Là, la collusion avec l'Iran est évidente. Elle est juste après le 11 septembre.
Et d'ailleurs, dans les mémoires d'Abu Hafs, ce sont des dizaines et des dizaines de pages où il détaille les 10 ans de séjour qu'il a effectué en Iran, aussi bien l'entrée, parce que c'était lui-même qui a été désigné par tout l'ensemble des groupes djihadistes qui étaient là, et quelle que soit leur nationalité, comme étant le coordinateur ou le porte-parole. Il a négocié avec les plus hautes autorités iraniennes, notamment, c'est-à-dire au niveau des services de sécurité. Et il a été transporté jusqu'à Téhéran pour négocier les modalités d'entrée, non seulement des combattants, mais également de leur famille.
Et de la famille de Ben Laden.
C'était lui-même le tuteur personnel de l'ensemble de la famille de Ben Laden, parce qu'une très grande partie de la famille de Ben Laden avait trouvé refuge en Afghanistan. Et à titre d'ami personnel de Ben Laden, et vu les liens entre Ben Laden et lui, il s'est retrouvé de facto comme étant le tuteur de la famille.
Il y a autre chose qui est frappant lorsqu'on passe en Iran, effectivement, juste après le 11 septembre, et donc toute la famille est exfiltrée. Il y a quand même un séjour en prison pour Abu Hafs, et il y rencontre Zarqawi. Et plus tard, ce Zarqawi, c'est le chef de l'État islamique. On a l'impression
pas que Zarqawi, beaucoup d'autres figures historiques qui à partir de 2003, vont marquer
on a l'impression que c'est là que les histoires se croisent, et les deux djihads se croisent, d'une certaine façon, en fait.
Parce que, justement, Abu Hafs se retrouve... ils ont eu quelques petits séjours en prison quand les rapports devenaient un peu tendus avec les Iraniens, mais globalement, ils ont plutôt passé leur séjour dans des conditions de résidence surveillée, plutôt souvent dans des complexes assez confortables, etc. Et à un moment donné, il se retrouve en prison. Et Ben Laden, Abu Hafs se rend compte que dans la cellule à côté, c'était Zarqawi. Et dans ses mémoires, il raconte, il a reconnu par la voix, etc., etc. Abu Hafs, quand même, entre parenthèses, ne dit pas grand-chose sur cet épisode, parce que quand j'ai essayé d'avoir plus d'informations, c'était extrêmement difficile de le faire parler. Mais par contre, je lui ai posé la question, est-ce qu'à son avis, comment se fait-il que lui, qui s'était présenté comme le docteur Abdallah aux Iraniens, et qu'il finisse très vite par reconnaître qu'il s'agit d'Abu Hafs al-Mauritani, je lui ai posé la question, est-ce que, à son avis, comment est-ce que les Iraniens n'ont pas reconnu Zarqawi, qui était déjà beaucoup plus célèbre que lui, donc l'histoire était très connue, aussi bien en Jordanie, en Syrie, etc. Et Abu Hafs me dit, bon, franchement, je ne sais pas, je sais que les Iraniens ont souvent été troubles.
Mais... Et là, ils vous mentent, ils l'ont forcément reconnu. Enfin, forcément, on ne peut pas imaginer qu'ils ne l'ont pas reconnu.
Alors, j'avoue que Abu Hafs a cette quand même manie de ne jamais répondre à des questions...
très directes.
Où il peut éventuellement se mettre en danger ou en porte-à-faux avec ses anciens amis.
Et en parlant de ça, ce sera la dernière question, Lemine Ansalem. Comment se fait-il que ce monsieur, quand même, vive tranquillement, finalement, en Mauritanie ?
Tranquillement, en apparence, oui, mais je pense qu'il doit être sous étroite surveillance. D'ailleurs, quand j'ai voulu m'entretenir avec lui, j'avais proposé qu'on se voit à l'étranger. J'ai bien compris que... Quand on m'a signifié qu'Abu Hafs ne voyage pas, j'ai compris qu'il doit être interdit de voyage. Mais je pense qu'il doit être certainement sous une certaine surveillance, vu aussi les relations aujourd'hui entre la Mauritanie, la France, les États-Unis sur les questions comme le Al-Qaïda, etc.
Surveillé, mais en tout cas en liberté, à Nouakchott, en Mauritanie. Merci beaucoup. Ça s'appelle l'histoire secrète du djihad d'Al-Qaïda à l'État islamique. Lemine Ansalem, merci beaucoup de votre passage.
C'est moi qui vous remercie.
Merci beaucoup. Merci. Voici Shame. Onrizia sur France Inter. Onrizia, Shame sur France Inter.
Le 18-20, Fabienne Saintès sur France Inter.
Et à 18h56, on est retombé sur nos pieds. Bonsoir Anthony Bélanger.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
En Inde aujourd'hui, l'Inde, Anthony, qui vient d'annoncer un plan inédit de couverture santé.
Et oui, lorsqu'on regarde dans le détail, c'est même très impressionnant. L'idée est à terme d'offrir à 100 millions de familles indiennes 500 000 roupies annuelles en soins de santé, c'est-à-dire un total annuel de 6 650 euros. 100 millions de familles, c'est environ 500 millions de personnes couvertes. Et 6 250 euros par an, ça semble très peu pour une famille entière vue de France ou même d'Occident. Mais c'est énorme pour l'Inde, c'est grosso modo le prix de 5 chirurgies cardiaques. Autrement dit, ça suffit largement pour permettre à une famille de couvrir l'ensemble de ses soins de santé et surtout d'envisager des traitements pour des maladies lourdes, cancer, chirurgie orthopédique, ce que vous voulez. Et ce, même dans les nombreux hôpitaux privés du pays. Autrement dit, il s'agit bel et bien d'un premier pas vers une couverture de santé universelle. C'est très important dans un pays qui dépense 1,4% de son PIB pour la santé, contre 3,1% en Chine et 10% en France.
Mais alors attendez, est-ce que l'Inde peut financer un plan aussi gigantesque?
Oui, on peut effectivement parler de gigantisme. Les projections montrent que cela coûtera, au bas mot, quelques 150 milliards d'euros par an à l'Inde. D'autant que ce n'est pas la première fois que vous savez que Narendra Modi, le Premier ministre indien, propose un plan de ce type sans le financer. Mais aujourd'hui, figurez-vous que les conditions économiques ont changé. L'Inde est récemment devenue la cinquième économie du monde, devant la France et le Royaume-Uni. Et son taux de croissance est de 8% par an. Elle estime donc avoir les moyens de financer ce méga plan. Et puis ensuite, il y a urgence. L'espérance de vie d'un Indien est de 68 ans. C'est plus de 80 ans pour un Français. L'idée est donc de que les jeunes générations arrivent en bonne santé et bien éduqués sur le futur marché du travail. D'autant que dans les 20 ans à venir, 500 millions d'Indiens devraient quitter les campagnes, 500 millions d'Indiens pour les grands centres urbains. Il faut donc préparer le pays, et l'Inde a décidé de commencer par son système de santé et son éducation.
Donc ça c'est formidable, mais il doit quand même y avoir quelques raisons un peu plus prosaïques, on va dire.
Bien sûr, il y a tout bonnement les élections à venir en 2019. Or ce plan entrera pile en service en pleine année électorale, et depuis qu'il est élu, Narendra Modi, vous savez, a surtout joué la corde nationaliste avec un certain succès d'ailleurs, puisqu'il a remporté toutes les élections intermédiaires. En face, le parti du Congrès commence tout juste à réagir. Il a mis à sa tête le dernier rejeton de la famille Gandhi, Rahul, et devient de plus en plus incisif et donc dangereux. Il était temps pour Modi de passer à la vitesse supérieure. Ce plan destiné aux plus pauvres et à la population rurale est donc une première réponse à ces futures échéances électorales et au fait que le Congrès relève la tête. Il y a donc bien des calculs électoraux et partisans derrière cette annonce.
Alors donc, on se croirait chez nous à la chasse aux électeurs.
C'est justement ce qui est passionnant. L'Inde est incontestablement une démocratie, une vieille démocratie en plus, puisqu'elle n'a cessé de voter, y compris pour l'alternance, depuis son indépendance il y a 70 ans. Et on voit bien que cela change totalement les stratégies de développement. En Inde, il faut gagner les électeurs et donc leur proposer un contrat social, une redistribution des richesses, sous peine de perdre le pouvoir. Dans les pays autoritaires en développement, comme l'Égypte par exemple, où les élections sont des fictions grotesques et où le peuple se mate, eh bien le modèle est celui de l'accaparement et des infrastructures grandioses. Vous l'avez compris, je préfère, et de loin, la voie indienne.
Anthony Bélanger, merci beaucoup, à bientôt dans Un jour dans le monde, le 18-20 continue.